Merci pour votre intervention. Vous ne trouvez pas qu'il y a un décalage par rapport à la question de la sécularisation et du judaïsme, hein? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre le judaïsme français que vous avez présenté, enfin, en tout cas ancré en France, que vous avez présenté, et le messianisme juif aujourd'hui, qui j'ai l'impression, est très présent en Israël? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage, et à quoi vous attribuez ce décalage?
Merci Guillaume, première question.
Moi j'ai pas bien compris le rôle de la loi. Elle est à la fois vecteur, est-ce qu'on peut être un bon juif et ne pas appliquer complètement la loi? Voilà ma question.
Deuxième question.
Troisième question.
Pour suivre cette question, moi j'avais noté, est-ce que ce n'est pas compliqué aujourd'hui d'appliquer ces lois qui semblent très, très, j'allais dire, étriquées, hein, qui compliquent beaucoup la vie. Alors, je connais des juifs pratiquants, ça complique beaucoup la vie. Simple. Tu pourrais être simple. Voilà. Et comment on fait pour parce que vous avez en même temps parlé beaucoup d'adaptation, de réflexion, de... Voilà.
Ok. Bon, ben ça fait trois grosses... Oui, pardon, oui. La première question sur la contradiction éventuelle, peut-être, entre la manière dont j'ai présenté le judaïsme et le messianisme juif. Alors, c'est vrai que j'ai écarquillé les yeux quand j'ai entendu messianisme juif, parce que ça me semble pas du tout être quelque chose de très présent, par exemple, en France. Mais du coup, comme vous avez fait référence à Israël, je comprends mieux la question. Un mot sur le messianisme d'une manière générale, et après on verra combien en Israël, en fait, il représente une tendance précise. Le Messie est une notion juive, il est dans la Bible. L'ère messianique aussi, c'est l'idée que effectivement il y aura, enfin, que le monde est orienté vers le bien et qu'il y aura un moment où effectivement les peuples ne se feront plus la guerre, les épées seront transformées en socles de charrues, et comme le dit aussi la vision d'Isaïe, le loup dormira avec l'agneau. Et le rabbin d'ajouter, mais peut-être que l'agneau ne dormira que d'un œil. Mais en tout cas, voilà, ça c'est le messianisme, donc c'est une idée authentiquement juive. Il est vrai qu'en Israël, ça a pris une couleur politique très précise, enfin qui concerne quand même un secteur de la société juive en Israël. Enfin, il n'y a pas du tout ça, je pense, en France. Mais il est vrai que, par exemple, à la suite d'une circonstance politique particulière, en 1967, il y a eu, comme vous le savez, la guerre des six jours, qui a été remportée en six jours par Israël, de manière, enfin, je ne veux pas dire quasi miraculeuse, mais en tout cas, juste avant la guerre des six jours, là, la situation était très, 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 très critique. Nasser avait demandé aux troupes de l'ONU de quitter le mont Sinaï alors qu'elles étaient censées jouer un rôle protecteur, et en quelques secondes l'ONU a accepté de retirer ses troupes, etc. Il était question de jeter les juifs à la mer, il était question de tout un tas de choses, et puis voilà, donc la Jordanie ne devait pas entrer dans le conflit, etc. Israël avait prévenu qu'elle ne s'implique pas, mais de fait les trois armées arabes, syriennes, jordaniennes et Égypte, ont menacé Israël. La guerre a été menée et gagnée par Israël de manière miraculeuse, enfin miraculeuse en tout cas sur le plan militaire. Et c'est vrai que ça a suscité une forme d'espoir qui s'est messianisée. C'est-à-dire que Israël s'est retrouvé à devoir occuper un certain nombre de territoires, après justement les territoires occupés. Il était question d'ailleurs pour Israël de négocier, parce que c'était la résolution 242 dit bien la paix contre les territoires, c'est-à-dire les territoires ont été pensés à l'époque comme une monnaie d'échange, et puis ça s'est retourné en piège parce qu'il y a ce qu'on appelle le triple nom de Khartoum, dont personne ne parle jamais dans les analyses politiques, mais c'est peut-être l'occasion de le rappeler, à savoir le 1er septembre 1967, tous les pays arabes se sont réunis en disant non à la négociation, non à la reconnaissance de l'État d'Israël et non avec une paix d'Israël. Donc effectivement, Israël s'est retrouvé bloqué avec les territoires. Au début, il s'agit d'avoir un certain nombre de ce qu'on appelle d'implantations purement sécuritaires, purement militaires, pour tenir alors même qu'Israël s'apprêtait à négocier. Et le fait qu'il y ait ce blocage fait qu'Israël s'est retrouvé avec les territoires sur le terrain, et c'est vrai que ça a suscité, parmi certaines portions de la population, on va dire, orthodoxe, une sorte d'espoir fou en disant, mais non, mais finalement, c'est la volonté de Dieu qu'on ait ces territoires, etc. C'est juif, de toute façon, parce que c'est sur les territoires antiques de la Judée-Samarie, et donc c'est à nous, etc. Et il y a eu une pensée un peu messianique, effectivement, à savoir que la victoire militaire s'est transformée dans la vision, effectivement, assez étroite de ces mouvements-là, comme un don divin. Et donc, c'est le mélange bien connu et bien dangereux qu'on connaît, à savoir quand on mélange la politique avec le religieux. Donc, de fait, effectivement, il y a un certain nombre d'implantations qui ont été colonisées, on va dire, par ces juifs messianiques. Alors, il se trouve qu'ils ont pris de l'importance, effectivement, depuis 67. Ils constituent quand même pas la majorité, forcément, de ce qu'on appelle les colons. Il y a beaucoup de... Quand on voit un peu la sociologie des implantations, il y a beaucoup de gens qui sont là par opportunité économique, etc. Ils ne sont pas tous animés par ce messianisme, mais bon, ce messianisme existe. Je persiste à dire qu'il est quand même très minoritaire, même s'ils sont très vocaux et même s'ils posent un problème politique évident, à savoir, effectivement, le jour où on devrait évacuer ces colonies au nom d'un troc territoire contre paix, c'est pas sûr que ces gens-là acceptent. Au passage, c'est ce qui s'est passé à Gaza en 2005, quand Sharon a décidé unilatéralement d'expulser les colonies, les 21 colonies juives qui étaient dans la colline de Gaza. L'armée n'a pas hésité à expulser par la peau des fesses. Enfin, tout le monde se souvient encore de ces images où on enlevait les Sefer Torah des synagogues, etc. Et en une semaine, l'opération militaire était pliée, tous les colons ont dégagé, quoi. Et c'est Sharon qui a mené cette opération. Donc c'est peut-être comme ça, malheureusement, que ça finirait. Mais il y a un certain messianisme qui a gagné du terrain. L'idée que de toute façon c'est à nous, l'idée que les Arabes n'ont rien à faire là-dedans. Donc il y a des mouvements ultranationalistes qui sont sur cette lignée, c'est indéniable. Après, c'est vraiment pas la majorité de la population en Israël, et ça c'est typiquement israélien parce que c'est lié au conflit territorial dans le coin. C'est pas un élément de la pensée juive, ce messianisme.
Gershon Scholem, je relis ça quand même à la Kabbale. Il y a quand même un lien. Semblerait être fait. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris.
Oui et non, parce que de toute façon, l'interprétation des textes, il y a toujours eu. Peut-être que ça revient à quelque chose de plus général encore, qui est que les textes ont. Il y a toujours eu des sensibilités différentes là-dessus dans le judaïsme et dans toutes les religions. Il y a des gens qui lisent les textes de manière littérale. Et il y a des gens qui les interprètent. Et il y a notamment des interprétations qui ont été données, parce que oui, il y a des descriptions du territoire juif dans la Bible, et donc il y a toujours des gens qui vont montrer, mais regardez, ça c'est à nous, c'est marqué là. Le seul problème, c'est que 15 versets plus loin, c'est marqué autrement. Des descriptions du territoire vraiment juif dans la Bible, il y en a au moins 5 ou 6. Il y a la vision d'Ézéchiel, il y a la vision, etc. Alors, pour certains, c'est de la mer à l'Euphrate. Pour d'autres, c'est le territoire est divisé en 12 bandes, chacune occupée par une tribu. C'est une notion même pas territoriale, puisqu'elle serait impossible. Donc, en fait, il n'y a pas une vision qui est proposée par la Bible. C'est juste la manière dont les gens veulent l'interpréter. Et effectivement, certains trouveront les versets qui leur conviennent pour dire que, de fait, c'est un fait historique que la Judée-Samarie était occupée par les populations juives à l'époque. C'est intéressant d'ailleurs l'histoire parce que tout s'est inversé. La plaine côtière qui est aujourd'hui le cœur d'Israël, où 80% de la population israélienne habite Tel Aviv, etc., était à l'époque biblique occupée par les Philistins, par tout un tas de peuples, les peuples cananéens, et c'est vrai que le peuplement juif était dans les collines de Judée-Samarie. Il se trouve que l'histoire a complètement inversé ça, qu'Israël s'est construit sur la bande côtière, encore une fois, 80% de la population israélienne habite sur cette bande côtière, etc. Mais l'idée, effectivement, qu'il y a des terres juives en Judée-Samarie, certains s'y accrochent, et au nom d'une lecture, j'ai envie de dire, cadastrale effectivement de la Bible s'accroche à ça. Mais moi, j'ai aucun. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, la solution à deux États s'éloigne. C'est vrai que le territoire est tellement devenu morcelé que c'est de plus en plus difficile. Mais je pense, et c'est pas seulement moi qui le pense, que c'est la solution inévitable. Je pense que le jour où c'est décidé politiquement, enfin où il y aura des leaders politiques de chaque côté assez forts pour imposer ça à leur population, ces colonies disparaîtront comme elles ont disparu dans le Sinaï en 1973. Il y avait aussi beaucoup de peuplements, etc. Et là, ça a été évacué en un. À Gaza, en 2005, pareil, là, c'est Sharon qui s'en est chargé. Les Israéliens se sont retirés aussi du Liban en 2000. Voilà, au passage, ça n'a garanti aucune sécurité, parce que le lendemain même de leur départ, les roquettes commençaient à tomber sur toutes les villes avoisinantes. Donc ça, c'est encore un autre problème. Mais je pense qu'effectivement, ces colonies qui posent un problème politique aujourd'hui seraient évacuées sans trop de tergiversation, même s'il y aura des oppositions. Ça, c'est sûr que ça représente 300 000 personnes et effectivement des gens plutôt excités. Quoi. Ça, c'est certain. Je ne sais pas si je réponds à peu près honnêtement à votre question. La deuxième question, c'était sur la loi. Est-ce qu'un bon juif peut ne pas respecter la loi? Et puis, ce témoignage que pour beaucoup de juifs, c'est la loi, c'est restrictif et c'est important. Alors, même chose, j'ai envie de dire une chose, tout est possible. Enfin, d'abord, il y a énormément de juifs, je dirais, en tant que personnes, qui n'ont ni la foi et qui ne respectent pas la loi. Enfin, être juif, c'est aussi appartenir au peuple juif. Ça, c'est une notion qui est complètement différente, mais c'est quelque chose d'hétérogène. C'est la fameuse phrase de Ruth qui dit « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple », qui est en fait la première convertie. C'est-à-dire que le judaïsme a toujours été quelque chose d'hétérogène. C'est quelque chose qui est très mal compris. Et en général, d'ailleurs, enfin, il a été mal compris par le catholicisme en particulier. Mais c'est quoi? Alors, c'est pas une religion, c'est quoi? C'est à la fois un peuple. Eh ben, mes amis, c'est les deux, mon général. C'est à la fois un peuple, et c'est à la fois une culture, et c'est à la fois une foi. C'est tout ça ensemble. Et donc, beaucoup de juifs vous diront, la première des choses, ils s'assoient dans le bureau du rabbin, et vous savez, monsieur le rabbin, j'ai pas la foi. Et je lui dis, qui vous la demande? Enfin, on vous demande pas d'avoir la foi. De fait, factuellement, énormément de gens aussi sont presque même anti-religieux. Au passage, en Israël, la plupart des gens sont laïcs, enfin, au sens où on l'utiliserait, ils sont absolument pas religieux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une culture juive, mais le fait de ne pas respecter la loi, non, n'a aucun rapport quelque part, et c'est un rabbin qui vous parle, avec le fait d'être juif. On est juif par filiation, par adhésion à l'histoire, mais on n'est pas un moins bon juif. Alors, peut-être qu'un orthodoxe ne vous dirait pas la même chose. Il dit, si, un bon juif, c'est quelqu'un qui respecte la loi. Mais bon, la preuve, c'est qu'il y a plusieurs sensibilités dans le judaïsme. Et moi, en tant que rabbin libéral, je vous dis, ça n'a rien à voir. Bien sûr qu'on peut être un bon juif, même si on ne respecte pas la loi. Après, les gens ont des conceptions personnelles très différentes. Il y a des gens, effectivement, qui s'enquiquinent la vie, par exemple, respecter le Shabbat. C'est vrai que si on prend la loi du Shabbat, c'est contraignant. Alors d'abord, cette loi, moi je la trouve intelligente et on peut la présenter de manière... C'est comme le verre à moitié plein, à moitié vide. On peut la présenter de manière très complexe. C'est vrai, quand on étudie les lois de la cacheroute, on se dit « Waouh, la somme de lois qui définit... » Alors si c'est un animal qui est sur terre, etc., c'est ceci. Si c'est un mammifère, c'est cela. Si c'est dans l'eau, c'est cela. Et on se retrouve avec un stock de lois. Sauf que ces lois, en fait, ce sont les applications locales de grands principes qui, eux, sont profonds et sont clairs. Enfin, je veux dire, c'est comme... ça dépend, si on se situe au bout de la chaîne finale, effectivement c'est tout un tas de lois, mais après si on en comprend la logique, en fait les principes sont pas si compliqués que ça. Deuxièmement, ce qu'il faut dire, c'est que la loi, c'est quelque chose qui est censé élever l'homme. Et encore une fois, c'est la différence avec la notion de Paul. Paul disait la loi est mortifère, elle rappelle à l'homme combien il n'est pas au niveau. Pour le judaïsme, la loi, c'est du miel dans la bouche, c'est quelque chose de plaisant. Il est plaisant de respecter la loi si on le veut. Manger kasher, c'est peut-être une contrainte, peut-être, mais en fait, si on le fait aussi pour une bonne raison. Enfin, je veux dire, on considère que le monde n'est pas un supermarché, que tout ne me construit pas, qu'on n'est pas des animaux prêts à se jeter sur n'importe quoi, etc. Et au passage, c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas une société ou une civilisation dans le monde qui n'ait pas des tabous alimentaires non plus. Donc, et après, je veux dire, le troisième degré de ce que j'ai à dire en tant que réponse, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, après, personne n'a obligé qui que ce soit. Alors, si on se situe dans dans un monde orthodoxe, et ben oui, on est obligé de. Enfin, on est obligé. On veut bien déjà. Personne n'est forcé à quoi que ce soit. On se place dans un milieu orthodoxe qui respecte les lois, et tant mieux pour ceux qui les respectent et qui aiment ça. Mais il y a un tas de juifs, non, qui respectent pas la loi. Il y aura jamais aucun gendarme pour vous dire, mais tu sais, t'es un mauvais juif parce que tu fais pas ci, tu fais pas ça. Je veux dire, c'est la liberté individuelle demeure. Centrale. Moi, je sais pourquoi je fais Shabbat. Oui, à Shabbat, je vais pas remplir je vais pas le plein d'essence de ma bagnole. Je vais pas, etc. J'essaye de pas manipuler l'argent, etc. Je sais pourquoi je le fais. Je sais que c'est constructeur d'un jour différent des autres. Ça repose sur un volontarisme. Certains diront sur des contraintes. Bah, moi, je le fais parce que ça a un sens pour moi et je suis heureux de le faire. Et si quelqu'un veut pas le faire, je vais pas le juger pour ça. Mais il n'y a pas à voir la loi de. Je veux dire, c'est comme une discipline. La loi, c'est une discipline. Si on veut jouer du piano à un certain niveau, c'est des heures de travail. C'est de la discipline. C'est aussi du plaisir. Mais c'est vrai que c'est un effort. Le judaïsme, c'est pareil. C'est une partition qui s'écrit à partir d'un certain nombre de règles. Personne nous oblige à jouer ces règles, on peut ne rien faire si on veut, mais ces règles, elles ont une logique et elles sont productrices de moments particuliers. C'est vrai que s'interdire de travailler un jour par semaine, au passage, moi je suis le premier à dire que je respecte pas toute la loi de manière orthodoxe, j'allume l'électricité, etc. Un orthodoxe serait horrifié de m'entendre dire ça, etc. Mais par contre, c'est vrai que c'est un jour où je m'empêche de faire un certain nombre de choses. Enfin, c'est un jour assez contraint, pourrait-on dire, mais en réalité, c'est comme une discipline. On le fait parce que ça a une valeur et parce que surtout, ça produit une expérience différente.
Oui, mais alors, quand ça joue avec le contact avec une autre famille qui, elle, ne respecte pas la loi, et que ça coupe de la fraternité...
Je comprends, je je suis prêt à partager cette pensée à vous. Après, il y a des gens, excusez-moi, c'est peut-être un peu violent ce que je vais dire, mais ils sont plus ou moins intelligents. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont une manière de, par exemple pour moi, de respecter le Shabbat, tout ça devient tellement obsessionnel que ça arrive à un but final complètement contraire à l'idée même du jour au départ. Après, il y a des gens qui, effectivement, au nom de leurs contraintes alimentaires, vont refuser, mais leurs propres enfants, ou alors leurs propres enfants sont plus orthodoxes qu'eux, refuseront de manger chez leurs parents. J'ai envie de dire, pauvre personne, c'est un manque d'intelligence. C'est tout. Et effectivement, vous trouverez des gens qui ont ce manque d'intelligence. Vous trouverez aussi, fort heureusement, des gens qui sont plus ouverts que ça. Mais la loi, c'est quelque chose qui appelle à la responsabilité et à l'intelligence de l'homme. Donc c'est vrai qu'il y a des gens aussi qui sont psychorigides, enfin qui ont besoin de ça. Bon, moi, je ne pense pas être psychorigide et je ne pense pas avoir besoin de ce genre de truc, mais c'est parfaitement exact. Il y a des gens qui vont essayer de respecter le truc sans trop comprendre. Mais la loi, au départ, intrinsèquement, c'est pas fait pour écraser qui que ce soit ou pour contraindre, c'est une discipline, c'est clair, mais c'est fait pour élever quelque chose en nous. Donc à nous de savoir discriminer, à nous d'être tolérants envers, même ne serait-ce qu'à l'intérieur d'une même famille, et a fortiori vis-à-vis d'autres familles. Je vous rejoins. Mais je ne placerai pas, pour le coup, la tare, entre guillemets, dans la loi, mais dans simplement la manière dont les gens sont plus ou moins intelligents pour l'appliquer.
Le gamin qui dit à sa grand-mère, toi tu peux presser sur le bouton de la télé, moi je peux pas.
Bah ouais, mais ça c'est débile, puis c'est insultant, c'est un manque d'intelligence absolue et de sensibilité, enfin on est d'accord là-dessus. Enfin, moi je suis d'accord avec vous en tout cas.
En début d'intervention, vous avez évoqué l'opposition entre philosophie et religion, entre la connaissance et la reconnaissance, on va dire comme ça. Quel est votre positionnement par rapport à Maïmonide et avant à Sadia Gaon, je dirais, dans leur démarche de rapprocher, j'allais dire Socrate, plus que Platon d'ailleurs, Socrate et le judaïsme.
Okay. Voilà une première question, madame.
Oui, est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est un rabbin libéral, comme vous vous êtes présenté, par rapport aux autres.
Est-ce qu'on peut expliquer ce qu'est un rabbin libéral?
Et j'ai aussi une autre question. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de distinction entre le juridique et le spirituel. Enfin, je n'ai peut-être pas bien compris, si vous pouvez élaborer encore un petit peu sur ce point.
Alors, c'est vrai que j'ai pas opposé, mais j'espère que j'ai pas donné, j'ai distingué en tout cas la démarche philosophique de la démarche religieuse, en tout cas je pense, en y voyant enfin deux attitudes différentes, mais en souhaitant qu'elles soient conjuguées au sein d'un même cerveau. Enfin, moi j'adore la philosophie, je pense que voilà, je me considère comme religieux aussi. Enfin, pour moi c'est pas du tout incompatible, mais il est vrai que ça ressort de choses différentes. Maïmonide, alors je ne peux pas dire que je suis un expert et un spécialiste de Maïmonide, mais vous touchez une corde sensible, parce que j'ai quand même enseigné des dizaines et des dizaines d'heures sur Maïmonide. Pour moi, c'est le plus grand penseur, un des plus grands philosophes, et je n'ai pas envie de dire un philosophe juif, c'est un des plus grands philosophes tout court de l'histoire de la pensée. Malheureusement, comme il est considéré comme juif et religieux, il n'est pas enseigné à l'université dans les cursus philosophiques traditionnels, mais je pense que c'est une erreur totale parce que c'est un des plus grands philosophes tout court, qui effectivement a essayé de concilier les deux. Et vous citez un autre philosophe qui est moins connu peut-être du grand public, qui est Sadia Gaon. Je veux juste préciser, en profiter pour parler un petit peu de chacun des deux. Sadia Gaon, c'était un juif né en Égypte, mais qui a exercé en Irak, enfin l'Irak n'existait pas, mais en Babylonie, on va dire. Il appartient à cette catégorie de sages, on appelle les Gaonim, Sadia Gaon. Le mot Gaon en hébreu veut dire génie, et en fait c'était un titre décerné à des grands responsables d'académie talmudique. Entre 600 et 1000, sur le territoire de la Babylonie, sur l'Irak actuel, il y a eu une vie juive extrêmement foisonnante, qui était le centre de leadership du judaïsme qui a irrigué toute la Méditerranée. Les communautés éloignées, qui étaient encore chancelantes et en construction, celles du sud de l'Espagne notamment, envoyaient leurs questions aux grands responsables d'académie talmudique en Babylonie, et ces rabbins, et Sadia Gaon en particulier, donner des réponses, mais donc chaque réponse était élevée à la dimension d'un traité. Donc ils ont contribué à créer l'autonomie des communautés autour de la Méditerranée. Et Sadia Gaon a été le premier, ça a été son grand accomplissement, je dirais, historique, à formuler, à reprendre la pensée philosophique arabe, qui était plus avancée. Hein, on doit en fait la réception de toute la philosophie antique après la fermeture de l'Académie talmudique en 529 par Justinien a été fermée. Et donc il y a eu une éclipse de la philosophie, et c'est les premiers philosophes arabes, Al-Farabi étant l'un des premiers d'entre eux, qui a repris cette philosophie antique en la traduisant en arabe. Et c'est seulement un ou deux siècles plus tard, vers le 9e, 10e siècle, qu'effectivement les juifs à leur tour, et Sadia Gaon a été le premier, à traduire en hébreu. Donc en fait, Sadia Gaon, c'est l'introducteur de la philosophie classique en hébreu. Donc c'est un rôle énorme, et il a effectivement cherché à concilier la raison et la foi, pour faire simple. Mais je dirais que Maïmonide a été encore beaucoup plus loin. Alors Maïmonide, il vient un petit peu plus tard, ses dates de vie c'est 1135-1204, il est né en Espagne, à Cordoue, où il y a une magnifique statue de lui, et puis après il a migré, il a une vie très intéressante, il est allé au Maghreb, et puis après il a été en Israël, mais il en est tout de suite parti, pour se fixer à Foustat, qui est dans la banlieue du Caire aujourd'hui. Le Caire n'existe pas, on dirait le Caire aujourd'hui, et où il est devenu le plus grand sage de son temps, en essayant de concilier ce qu'il appelle le guide des égarés, c'est le guide des perplexes, en fait, le titre exact, et son livre le plus connu, où il essaye de théoriser la situation justement de quelqu'un qui serait profondément imprégné des textes religieux, et qui n'est pas un libre penseur, hein, qui cherche, qui n'est pas dans une démarche critique comme on se pourrait l'entendre au sens moderne, mais qui croit ce qui est marqué dans la Bible, et qui en même temps est disturbé et perturbé par un certain nombre de choses que sa raison lui dicte. C'est vrai que quand on dit que Dieu intervient, qu'il descend dans le monde, qu'il parle, qu'il ouvre la mer, etc., ce sont des anthropomorphismes choquants. Et donc, le texte dit, donc on a envie de le croire, mais en même temps, la raison s'oppose à ça. On a du mal à croire un Dieu aussi incarné, autrement aussi anthropomorphisme. Donc, il initie un projet intellectuel de grande ampleur, de beaucoup plus grande ampleur que Saadia Gaon. Parce que Saadia Gaon, quand il y avait des contradictions entre le texte et la raison, en gros, sa philosophie, c'est de dire que oui, mais il faut comprendre les choses. Il faut comprendre les choses de manière analogique. En fait, Dieu nous a donné l'intelligence, donc même l'intelligence, elle est divine, et donc, voilà, il y a des ponts. Enfin, c'est une espèce de conciliation entre la philosophie et la religion, et pas toujours de manière convaincante. Le projet de Maïmonide est beaucoup plus radical, c'est qu'il met les deux philosophies et religion au même niveau de dignité intellectuelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve jamais dans le monde orthodoxe. Dans le monde orthodoxe, vous trouverez des gens parfaitement intelligents, qui par ailleurs ont des doctorats de physique, nucléaire, ou de je sais pas quoi, ou qui bossent dans le monde de l'entreprise, etc. Mais c'est vrai que le savoir profane, dans l'orthodoxie, est considéré comme d'une dignité inférieure. Elle a une dignité instrumentale. Oui, comme on doit bosser, on peut être comptable chez je sais pas qui, ou directeur des ressources humaines, etc. On utilise un vocabulaire, parce qu'on a soi-même un diplôme universitaire, mais quelque part, dans la pensée, la Torah reste supérieure, parce que quelque part, tout se trouve dans la Torah, etc. Chez Maïmonide, il n'y a pas du tout ça. On place les deux au même niveau, et c'est ça sa radicale différence. Il pensait que la halakha, alors la halakha, c'est le mot hébreu pour dire loi juive. Il pensait que la halakha était absolument essentielle, parce qu'elle était d'origine divine, mais surtout qu'elle avait une fonction très intéressante pour l'homme. Elle servait à détacher l'homme des processus, où le nez dans le guidon, on se laisse engluer dans les processus économiques, par notre intérêt, par le monde politique, etc. Et on devient soi-même une espèce de robot de tous les processus sociaux dans lesquels on est inclus. Et donc la halakha, pour lui, avait la vertu, justement, du fait que cette loi, par moment, nous donne des injonctions antinaturelles. C'est vrai que c'est un effort de s'extraire de ça, etc. Mais c'était précisément la vertu de la halakha. Pour lui, ça plaçait l'homme dans une dignité autre, qui l'arrachait aux flux sociaux, aux flux économiques dans lesquels on a tendance à s'engluer. Mais en même temps, il disait, la halakha fait ça et c'est génial, mais il y a un danger de la halakha, c'est quand ça devienne quelque chose de mécanique. Et effectivement, il y a une routine religieuse qui peut s'installer très facilement. Des gens qui font, qui respectent les mitzvot, et il disait, le grand danger, c'est qu'on oublie devant qui on fait ça et pour qui on fait ça, à savoir Dieu. Le grand but de la religion, c'est la connaissance de Dieu. Et là, on a besoin d'autre chose, on a besoin de quoi? De la philosophie. Parce que ce Dieu, il ne faut pas justement l'imaginer de manière idolâtre, etc. Et seule la philosophie donne les bons concepts pour avoir une idée, je dirais, purifiée de Dieu. Et la philosophie est essentielle pour savoir devant qui on fait tout ça. Et il faut conjuguer les deux. L'homme religieux pour Maïmonide, c'est celui qui est dans le respect de la halakha, parce qu'elle est divine, etc., et parce qu'elle a un certain nombre de fonctions très intéressantes, nous désengluer de toute cette mécanisation du flux de la vie, etc. Et la philosophie qui constamment nous rappelle de manière pure et saine, avoir des idées justes sur Dieu, que Dieu n'a pas de corps, qu'il est un, etc. Et ça, pour lui, c'est des choses qui se démontraient par la philosophie, et on a besoin des deux. Et on voit que le projet intellectuel de Maïmonide est d'une toute autre envergure que celui de Saadia Gaon, qui a eu l'immense mérite d'initier le judaïsme à la philosophie, mais qui était, globalement conciliateur. Non, il n'y a pas de contradiction entre la raison et la religion, ça se passe bien, et puis on ne comprend pas tout, etc. Maïmonide, lui, pour lui, avait une vision radicale, enfin, il l'a théorisé de manière radicale. Les deux sont nécessaires pour être un religieux digne de ce nom. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Maïmonide. Et après, donc, votre question, rabbin libéral. Donc ça m'oblige à dire deux, trois mots du judaïsme libéral, très, très, très rapidement. Le judaïsme libéral est né en Allemagne au début du 19e siècle, à un moment très intéressant de l'histoire juive, précisément au moment où les ghettos tombent, sous l'influence des idées des Lumières, etc., puis sous l'influence tout simplement sociologique, les ghettos ne tiennent plus, les juifs commencent à sortir du ghetto, ils commencent à tracer des trajectoires personnelles dans la société. Et ça produit une situation inouïe au sens littéral, jamais entendue dans le judaïsme. Et ça pose un problème au judaïsme. On ne comprend pas le judaïsme libéral si on ne comprend pas le problème qu'a posé la modernité et si on ne comprend pas comme une solution apportée à la modernité. C'est-à-dire dans le ghetto, bon, c'est une situation inique politiquement, c'est l'exploitation, c'est l'exclusion totale, etc. Mais je dirais qu'il y a au moins une vertu, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'il y a une certaine cohérence. La vie juive dans le ghetto, elle est entièrement paramétrée par une vision orthodoxe de la vie. Enfin, le mot orthodoxe, d'ailleurs, n'existe même pas. Il est entièrement paramétré par la vie juive. Être juif dans le ghetto jusqu'au XVIIIe siècle, bah, c'est être juif par la filiation, et c'est vivre dans un milieu juif où tout est paramétré par la loi. Point final, parce qu'il n'y a pas d'autre point de repère. À partir du moment où le ghetto tombe et où un juif peut avoir une trajectoire personnelle dans la société, il découvre une situation comparative. Déjà, il voit des choses, et donc la question du choix se pose. Ah ben oui, je peux être citoyen et même d'ailleurs vivre de manière totalement non-juive. Mais si je veux rester juif et en même temps être citoyen, qu'est-ce que je fais? Très concrètement, si je suis fonctionnaire en Allemagne en 1810, etc., et qu'on me demande de bosser le samedi, qu'est-ce que je fais du respect du Shabbat? Voilà, le genre de question complètement inouïe d'être dans une situation comparative et de devoir arbitrer sur c'est quoi mon degré d'engagement dans le judaïsme et c'est quoi mon degré d'engagement en tant que citoyen. Si je veux être les deux, entre nous, c'est contradictoire. Ça peut pas avoir. Il y a eu une réponse qui a été celle de l'orthodoxie en disant, bon, bah, la citoyenneté, c'est génial, mais c'est corrosif du judaïsme. Vite, replions-nous dans des communautés homogènes, avec un certain séparatisme social, pour pouvoir continuer à vivre le judaïsme de manière cohérente. Ça a été une réponse. Les libéraux ont dit, nous on va être les deux, mais ça implique de changer, d'accepter l'idée que le judaïsme doit évoluer. Et au passage, au début, la première génération des libéraux, des réformés, comme on les appelait en Allemagne, là on est dans les années 1810-1820, la première synagogue libérale c'est 1810 à Seisen, dans le nord de l'Allemagne, du côté de Hambourg, c'était des activistes, c'était pas des théoriciens, c'était pas des intellectuels. Ils voulaient juste présenter le judaïsme de manière moderne et ils voulaient que quand ils allaient dans la synagogue, il y avait une continuité avec le niveau de vie sociale et que les standards culturels du judaïsme soient au même niveau que celui de la société. Et puis est venue une génération de théoriciens, dont un grand théoricien qui s'appelait Abraham Geiger, qui a réussi à démontrer que non seulement le judaïsme devait évoluer, mais qu'en fait c'était parfaitement loisible que dans les textes juifs, il y avait ce principe d'évolution. On l'avait simplement oublié du fait du ghetto, mais ça c'était un fait politique extérieur au judaïsme qui avait figé les choses, mais en réalité que le Talmud était une immense œuvre révolutionnaire où les rabbins n'hésitaient pas à théoriser l'évolution du judaïsme, à complètement s'opposer à ce que disait la Bible et à constamment faire évoluer la loi. Donc il a réussi à démontrer ça. Et en disant, bah, chers amis, non seulement le judaïsme doit évoluer, mais en plus il peut évoluer, je l'ai démontré, et donc il faut que le judaïsme s'adapte. Donc voilà, le judaïsme libéral, c'est un mouvement qui a essayé d'être une réponse à la modernité en acceptant que la loi juive, justement, que l'on pensait figée parce que donnée une bonne fois pour toutes au Sinaï, en fait c'était faux, que la loi avait toujours évolué et qu'il fallait à cette époque la faire évoluer. Alors là, je vais faire un petit saut dans le temps. La mesure la plus... Alors, tout ça, après, c'est structuré idéologiquement. Il y a eu trois grandes conférences au milieu du 19e siècle qui ont structuré idéologiquement le judaïsme libéral. La conférence de Francfort, de Brunswick et de Breslau, 1945-1946, et qui a pris un certain nombre de mesures. La plus spectaculaire, c'est l'égalité des hommes et des femmes. Il y en a plein d'autres. À savoir de décréter une bonne fois pour toutes que les hommes et les femmes ont les mêmes droits et devoirs dans le judaïsme, et que donc une femme peut devenir rabbin, que les filles peuvent étudier les mêmes matières que les hommes, parce que dans le monde traditionnel c'est pas le cas, les hommes peuvent étudier le Talmud et les femmes pas tous les sujets, etc., que tout ça était absolument obsolète, caduque, et qu'il y avait une égalité totale. Donc un rabbin libéral aujourd'hui, héritier de cette histoire, c'est un rabbin, je dirais, d'abord où des rabbins peuvent devenir femmes. Ma collègue à la synagogue du 15e où j'exerce, c'est le rabbin Delphine Orwiller, hein, voilà, donc on a les deux rabbins de cette communauté, et puis il y en a plein d'autres. Florian Chinsky qui a participé à ce livre qu'on mentionnait, Des femmes et des dieux, c'est elle qui est en dialogue avec Emmanuel Sebold, et Kaina Baloul, cette femme imam. Il n'y a pas de différence. Les petites filles célèbrent leur bat mitzvah exactement de la même manière que les bar mitzvah. Les hommes et les femmes prient ensemble à la synagogue. Les femmes ne sont pas reléguées à l'étage dans ce qu'on appelle les Ezrat Nashim, la cour des femmes. Enfin, il y a tout un tas de... Enfin, bref, il y a une égalité totale. Et puis après, bon, il y a d'autres sujets plus... il y a une conception plus large de la judéité. C'est-à-dire que dans le judaïsme traditionnel, puis j'en arrêterai là sur les deux points principaux, on est juif de deux manières, par la mère ou par conversion. Et le judaïsme libéral y ajoute aussi par le père. C'est-à-dire qu'un enfant né de père juif et de mère qui ne l'est pas est présumé juif, à charge pour lui de confirmer sa judaïté par un certain nombre d'actes, qui est en général la célébration de la bar mitzvah, qui le confirme dans sa judaïté, là où effectivement, d'un point de vue orthodoxe, un enfant né de père juif n'est pas juif du tout et il doit se convertir. Ce qui contrevient d'ailleurs à l'expérience de nombreux enfants qui ont été totalement élevés dans le judaïsme et qui souffrent beaucoup de cette situation identitaire parce que eux se sentent et se savent juifs depuis l'enfance et l'orthodoxie ne reconnaît pas leur judaïté. Donc nous, les mouvements libéraux disent oui, moyennant conformation à un certain nombre de choses. Donc être rabbin libéral, je dirais c'est ça, c'est l'égalité homme-femme, c'est une vision plus libérale de certains sujets, et je dirais d'une manière générale, une plus grande ouverture sur la société. Voilà, ça pourrait être détaillé, mais en gros, c'est culturellement, il y a quand même cette différence d'approche. Les communautés libérales sont moins fermées que les communautés orthodoxes ou traditionnelles.
Vous avez dit l'interprétation, il faut toujours interpréter les textes. Hein? Oui. Mais est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas un risque de changer complètement le texte? Voilà.
Vous dites, en Israël, ça fait plaisir si vous dites comme en Israël, la femme est l'égale de l'homme, quoi. Parce que dans le monde musulman, il faudrait qu'ils prennent modèle. C'est atroce. Même en Iran, hein, quand on y va, elles ne sont pas légales. Dans la plupart des pays musulmans, elle n'est pas l'égale de l'homme. Vous voyez, ça fait plaisir. Hein.
Comment on se convertit?
Le problème, c'est que je n'arrive jamais à me relire. L'interprétation des textes, voilà. Avec cette question, jusqu'où interpréter les textes et dans quelle mesure on change. Alors, c'est vrai que c'est un risque. On ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas faire dire n'importe quoi au texte non plus. Donc, il y a quand même des règles, ce qu'on appelle d'exégèse. Enfin, il y a des règles interprétatives. Ceci dit, ça peut aller assez loin, hein, parce que je veux dire, c'est vrai que vous posez une question. Enfin, ça dépend à qui vous posez la question. Des juifs vont vous donner des réponses différentes. Hein. On dit deux juifs, trois opinions déjà pour commencer. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est rapidement compliqué. Oui, enfin, c'est vrai qu'il y a une grande diversité d'interprétations. C'est vrai que l'interprétation a été valorisée dans le judaïsme. On s'en est toujours sorti. Justement, ce qui est central, c'est de garder le signifiant. À partir du moment où les textes de référence sont toujours les mêmes, on ne sort pas du judaïsme. C'est une différence d'ailleurs culturelle très importante entre le christianisme et le judaïsme. Et je dirais que ce qui protège, c'est le fait que le judaïsme soit une religion pratique. Le christianisme a supprimé la loi. Donc du coup, on s'est retrouvé avec une religion qui valorisait la foi et qui valorisait l'idée qu'on a de Dieu. Et très rapidement, l'histoire du catholicisme, en tout cas, le prouve, on a eu besoin de définir Dieu. Dès le concile de Nicée en 325, on définit la relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, consubstantielle ou pas, etc. Et donc, on définit, comme il n'y a plus de checks, enfin, comme il n'y a plus de limites posées par la pratique, c'est uniquement dans le domaine des idées que ça se passe, et on en arrive à devoir définir une idée. Et une fois qu'elle est définie, si on en dévie d'un millimètre, on est dans le schisme et dans l'hérésie. Et de fait, le catholicisme est l'histoire continue des hérésies et des schismes qui pensent un petit peu différemment du dogme. Je dirais que le judaïsme a toujours été préservé de ça parce que c'est une religion pratique. C'est pour ça que la loi joue en fait le rôle d'une... C'est contre-intuitif pour une pensée moderne, mais joue le rôle d'une protection de la liberté de penser. Dans le judaïsme, on ne va pas vous demander à quel Dieu vous croyez, s'il est barbu, pas barbu, s'il est homme, s'il est femme, etc. On s'en fout. Du moment que vous faites vos trois prières, etc., c'est un moment social où on se retrouve, et encore, j'ai dit que tout le monde n'était pas dans une pratique, mais le fait que le judaïsme soit aussi une religion pratique préserve de la liberté de pensée et même la promeut. C'est vrai que dans le Talmud, on trouve des choses complètement étonnantes concernant Dieu. Donc, je dirais que ce qui préserve le judaïsme, c'est la loi. Et c'est le fait d'avoir toujours le même texte, c'est-à-dire que même les libéraux ou les orthodoxes, c'est la même Torah, c'est le même Talmud, c'est les mêmes textes. On va l'interpréter de manière différente. Hein.
Nous aussi, on a les mêmes textes, les chrétiens. Les évangiles, on ne les invente pas.
Oui, non. C'est...
On a aussi les signifiants.
Oui, non, c'est vrai que bah, ça c'est quelque chose qui nous rapproche. Par contre, dans la loi, c'est quelque chose qui nous différencie. C'est-à-dire que la pratique donne cette dimension. Dans le judaïsme, dans la mesure aussi où il n'y a pas de hiérarchie, en fait, qu'est-ce qui donne le principe de stabilité? Un rabbin, en fait, c'est quelqu'un qui est accepté comme rabbin par sa communauté. S'il raconte n'importe quoi et qu'il sort et qu'il n'a plus la légitimité d'une communauté et que les gens disent bah non mais là franchement c'est n'importe quoi, c'est plus du judaïsme, bah, ce type va disparaître ou son mouvement va disparaître. Et donc il n'y a jamais eu d'autorité centrale pour définir, et donc qui définit aussi qui est in, qui est out. Voilà, c'est une masse assez floue qui peut bouger, mais c'est finalement assez stable. Parce qu'on est lié par la loi et qu'on est lié par la fixité du texte. Mais avec des grandes différences, on est d'accord. Je ne sais pas si je réponds bien à votre question.
Oui, je ne suis pas convaincu.
D'accord. Non, là, ça veut dire que j'ai loupé quelque chose, mais c'est pas grave.
Mais je suis aussi critique sur les interprétations.
Oui.
Ça d'ailleurs que je ne mets pas tellement dans les trucs biblistes ou autres, parce qu'on a... On peut entendre tout et son contre, pas à son contre.
Oui, je comprends.
Mais enfin, voilà. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'à un moment donné, on n'en est pas à changer les textes, quoi, selon la personne.
Non, mais c'est...
Parce que nous aussi, on est dans les textes.
Oui, ouais.
La Bible aussi, nous.
Ouais.
Tous les évangiles, quoi.
Ben, je pense que, encore une fois, dans le judaïsme, il y a ce double dispositif. C'est-à-dire que... Sur le domaine pur de la pensée, ça peut aller très très loin. Enfin, les variations peuvent aller très loin. Mais par contre, il y a un moment, il faut que ça se mette d'accord sur la pratique. Voilà, bon, c'est une partie de la réponse en tout cas. La deuxième question, alors oui, hommes et femmes, vous disiez grande nouvelle, hommes et femmes, etc. En Israël, alors... Je pense qu'il y a peut-être j'espère pas, mais je veux préciser, je pense qu'il y a peut-être une confusion dans votre question. Quand vous dites en Israël, il y a l'égalité des hommes et des femmes, on parle de deux choses différentes là. Moi, je parle de religion, et en Israël, en tant que pays, Israël est un État laïque, c'est pas une théocratie, hein, Israël, c'est un État laïque, dit par une loi totalement laïque, où il y a l'égalité des hommes et des femmes. Enfin, je veux dire, comme en France, comme en Occident, donc ça, là, il n'y a pas photo là-dessus, c'est une société laïque définie... par la loi, et il y a évidemment une égalité des hommes et des femmes. Donc, par contre, si on parle du judaïsme, donc en tant que religieux, c'est vrai qu'il y a une certaine asymétrie dans les communautés traditionnelles et orthodoxes. C'est-à-dire, beaucoup ne s'en plaignent pas, hein. Moi je suis le premier à pouvoir les dénoncer, mais après, il y a des gens qui sont parfaitement heureux dans ces univers, parce que c'est plus complexe qu'il n'y paraît, c'est vrai, mais effectivement, il y a une asymétrie. Par exemple, un exemple tout à fait... majeur et important, c'est en termes de divorce. Le divorce est asymétrique dans la loi juive, dans son interprétation orthodoxe. L'homme, seul l'homme, par exemple, peut déclencher le divorce. Donc il a un pouvoir incroyable, et si une femme veut divorcer, tant que l'homme n'est pas d'accord et n'a pas exprimé son accord, la femme reste, on appelle, ancrée, aguna, dans un mariage au sens juif. Donc voilà, il y a certaines dispositions de la loi où effectivement, selon l'interprétation orthodoxe, il y a cette asymétrie. Mais encore une fois, tous les mouvements libéraux, alors je rappelle un fait quand même majeur, c'est-à-dire qu'en France, le judaïsme libéral est complètement minoritaire, mais que dans le monde, il est majoritaire. Enfin, par exemple, le judaïsme anglo-saxon, qui est la plus grosse communauté juive en fait mondiale, le judaïsme libéral est majoritaire sur la planète quand même. Donc, et en tout cas, il y a cette égalité totale.
Par exemple, à Istanbul, quand on a fait escale, ma femme est arrivée, il y avait dans la mosquée, il y avait une toute petite place pour les femmes serrées l'une contre l'autre, puis les hommes avaient
tout le... C'était immense.
Oui, alors, c'est vrai que, bon, je veux pas parler au nom de l'islam, mais c'est vrai que l'islam, voilà, les hommes et les femmes ne sont pas égalitaires non plus. Une femme ne peut pas être imam. Imam, d'ailleurs, veut dire pouvoir prier devant la communauté. Une femme ne peut pas être devant une assemblée d'hommes. C'est pour ça qu'une femme n'est pas imam. Elle ne peut pas prier un pas devant la communauté et mener la communauté dans la prière. Et puis, bon, il y a d'autres dispositions, évidemment très, très inégalitaires, mais bon, je ne veux pas parler au nom d'islam, mais dans le judaïsme, il y a aussi des inégalités, il y a aussi de la symétrie, mais il y a aussi le judaïsme libéral qui, lui, est totalement égalitaire. C'est ce que je veux dire là-dessus. Et puis, la dernière question, je n'arrive vraiment pas à me relire, c'était... Comment se convertir ? Alors là aussi, dans le, il y a deux modes très différents dans le monde orthodoxe. Enfin, dans, si je prends la situation française, par le consistoire ou par les mouvements libéraux, c'est vrai que le consistoire, ça peut être assez difficile. D'abord, je dirais pas parce que c'est plus difficile, mais parce que c'est assez opaque. Parfois, on peut se demander si c'est pas à la tête du client. Mais en tout cas, voilà. Donc, c'est bon. J'ai une parole critique envers cet aspect-là du consistoire. Ça, c'est certain. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais bon, c'est vrai que c'est pas toujours marqué du sceau de la grande clarté. Des gens peuvent attendre 10 ans. C'est un processus parfois assez vexatoire. Et puis surtout, bon, je vais me concentrer sur l'essentiel. C'est un processus qui met l'accent sur certaines choses dans le judaïsme, qui met l'accent sur un respect scrupuleux de la loi, c'est vrai, avec une espèce de mentalité un peu culpabilisante, je dois dire une culture un peu de la culpabilisation. Genre, si tu fais pas ça, bah, tu seras un mauvais juif. Ça, c'est vraiment, il y a vraiment cette couleur-là qui est donnée, un peu la carotte et le bâton. Donc une insistance sur la cacheroute, voilà, sur, Dieu sait si la cacheroute est essentielle hein, dans le judaïsme, je ne vais pas prétendre le contraire, mais voilà, on met l'accent sur la pureté rituelle vis-à-vis des femmes. C'est vrai qu'il y a des interdits sexuels voilà, qui pèsent sur l'homme et la femme, enfin, surtout sur la femme, faut dire. Donc voilà, on va mettre, et sur le respect du Shabbat, voilà, Shabbat, cacheroute, Nida. Nida, c'est le nom hébreu donné à toutes les lois de pureté rituelle qui sont liées à la sexualité conjugale. C'est vrai qu'il y a un tropisme culturel axé sur certaines choses, et avec une culture globale, là aussi c'est peut-être polémique dans ma bouche, je sais pas, mais une culture globale qui sera plutôt sur le respect scrupuleux et volontiers culpabilisant si on le fait pas. C'est une certaine manière de présenter le judaïsme. Les mouvements libéraux ont une autre approche, à mon avis tout aussi sérieuse, mais plus globale, moins axée sur la culpabilisation. Beaucoup plus axé sur le savoir, la pensée juive, la philosophie juive, Maïmonide, effectivement, on intégrera des choses qui ne font pas forcément partie du cursus du consistoire. Avec cette notion, non pas que la loi n'est pas centrale, la loi est centrale, mais avec l'idée que la loi, c'est être sur le chemin. On la connaît, la loi, on l'enseigne. Après, chacun ne part pas forcément au même endroit, et l'idée, c'est d'être sur le chemin et de tenter de progresser. Mais c'est pas une logique de tout ou rien. C'est-à-dire qu'il y a cette logique volontiers dans l'orthodoxie où il faudrait tout faire, ou alors si on ne fait pas tout, c'est pas la peine de faire et on ne fait rien. Non, on pense que voilà, c'est un chemin progressif et il n'y aura pas ce contrôle non plus, je vais pas dire inquisitorial, mais ce contrôle scrupuleux de ce que tu fais, ce qu'on ne fait pas. Voilà, on compte aussi sur la responsabilité des gens. Donc c'est une approche. C'est le même judaïsme, c'est la même loi, c'est les mêmes textes, mais une approche quand même culturellement assez différente. Et alors chez nous, par exemple, pour vous donner un processus précis, enfin chez nous, quand je dis chez nous, c'est chez moi dans ma synagogue au FJLF, en 15e, un processus de conversion, en gros, c'est 2 ans. La personne arrive, évidemment on la reçoit plusieurs fois, on essaye de comprendre sa motivation, si elle est au bon endroit, si c'est sérieux, etc. Et pour autant que c'est sérieux et qu'on l'accepte donc dans ce cours, il n'y a rien d'automatique derrière, hein, mais en tout cas on l'accepte, sans la repousser systématiquement 3 fois, 8 fois comme c'est le cas, parce que des textes disent ça, mais enfin là aussi... si on les interprète de façon littérale, c'est assez violent. Donc en tout cas, on examine le sérieux des gens, ça c'est sûr. Et une fois qu'ils sont dans le cours, il y a une formation d'hébreu préalable. Et une fois que l'hébreu est maîtrisé, mais en tout cas, une fois qu'on est capable de lire et d'écrire, il y a 18 mois de cours. qui balaye tous les secteurs du judaïsme. Et à la fin de ce processus, il y a deux choses. Il y a un examen qui est assez poussé. Enfin, on vérifie effectivement les connaissances des candidats donc, qui ont étudié pendant 2 ans. Et surtout, donc, ce qu'on appelle le Bet Din, c'est-à-dire le tribunal rabbinique, un tribunal de 3 rabbins, qui reçoit la personne pour une conversation à bâton rompu, mais enfin une conversation de vérité, quoi. On essaye de voir ce que la personne a dans les tripes et si en fait elle est à sa place dans cette communauté juive ou pas. Donc on l'accepte en tant que juive ou pas. Voilà. C'est le processus. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est relativement cadré. La vraie différence, c'est que, enfin, en France, par le consistoire, il y a un processus, mais c'est pas cadré dans le sens où on vous fait poireauter de manière un peu aveugle, sans visibilité. Je dirais pas que c'est automatique dans le judaïsme libéral, mais enfin, il y a un processus qui est quand même beaucoup plus clair, et si on fait ce qu'on demande de faire, ben, quelque part, on va jusqu'au bout, quoi.
On peut faire ce parcours sans se convertir ?
Pardon ?
On peut faire ce parcours sans se convertir ?
Oui, bien sûr. De fait, il y a les deux. Il y a beaucoup de juifs qui sont juifs, qui n'ont pas de problème de statut de judéité, qui suivent ce cours parce que c'est, il y a à peu près 45 à 50 cours de 2 heures. Voilà, donc c'est une manière de reparcourir le judaïsme et d'apprendre plein de choses parce que plein de juifs n'ont pas reçu ça. Plein de femmes n'ont pas fait leur bat mitzvah parce que dans les milieux où ils étaient, ça ne se fait pas. Ou un judaïsme familial très sympathique, très vécu, très authentique, mais où il n'y a pas eu d'enseignement non plus spécifique. Donc il y a beaucoup de personnes juives qui sont intéressées par ce cours. Et puis il y a aussi beaucoup de gens qui sont intéressés comme ça, qui ne savent pas pour quelle idée de la conversion est bizarre, donc qui s'engagent sans savoir. Alors il y en a finalement qui finissent par se convertir, mais il y en a, ce n'est pas l'objet, et simplement... c'était intéressant pour eux de suivre ces cours. Enfin, tout est possible.
J'ai fait un voyage il y a déjà longtemps avec les amitiés franco-israéliennes. Et le soir à l'hôtel, je vois mon nom, puis à côté il y avait marqué « non-juive ». Et je n'ai pas compris comment ça pouvait être, comment ça avait été fait.
Alors je pense, je trouve que c'est une formulation effectivement un peu violente, mais je crois pouvoir expliquer de quoi il s'agit. C'est-à-dire que dans les hôtels en Israël, il y a ce qu'on appelle le Shabbat Lift, il y a l'ascenseur du Shabbat. Un juif religieux ne peut pas prendre l'ascenseur. Pourquoi ? Parce que pour prendre l'ascenseur, il faut appuyer sur un bouton, donc créer une impulsion électrique, et c'est interdit. Donc, il y a plein de contournements de la loi pour rendre dans les ascenseurs shabbatiques, enfin pour les personnes pratiquantes en Israël, il y a un ascenseur qui s'arrête automatiquement à tous les étages. Donc personne, enfin, si on veut aller au 6e étage, on n'a pas besoin d'avoir un geste volontariste, d'appuyer sur le bouton du 6e, etc. Simplement, on rentre dans l'ascenseur, et cet ascenseur vous emmène systématiquement à l'étage que vous voulez, puisqu'il s'arrête à tous les étages. Donc c'est une manière de prendre l'ascenseur sans travailler. Parce que la notion de travail, c'est la notion de consacrer une certaine énergie en vue d'un but déterminé. Et donc, il y a, j'imagine que c'était ça, il y a aussi un ascenseur pour les gens qui ne sont pas liés à ce respect de la loi juive, donc présumément qui ne sont pas juifs, et qui eux peuvent utiliser l'ascenseur de manière normale. C'est ce que voulait dire, à mon avis, cet écriteau non-juif. Vous comprenez la différence ?
Non, on n'a rien demandé en moi.
Non, mais après...
Le nom, c'est facile à faire. Moi,
je n'ai
pas compris. Hein.
Vous êtes...
Tiens,
ça change. Non, alors, moi, ce que je pense de cette situation, encore une fois, c'est que la formulation n'est pas belle, mais sur le fond, par contre, il n'y a aucune discrimination. Parce que vous avez compris ce que j'ai expliqué, c'est qu'il y a un système qui respecte la loi juive et un système qui est tout à fait normal, où on prend l'ascenseur normalement. Donc, c'est pour permettre aux personnes qui ne sont pas juives, aussi de prendre l'ascenseur normalement. Enfin, c'est dans ce sens. Après, l'écriteau non-juif, c'est sûr que c'est un peu violent, mais en réalité, c'est pas une discrimination, c'est pour permettre, c'est vous permettre de prendre l'ascenseur normalement, c'est tout. Ah,
oui.
Je ne sais pas si je me suis fait comprendre.
Oui et non.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ?
comment il pouvait le savoir qu'elle était là.
Mais c'est pas ce que vous décrivez là. Vous dites que sur un ascenseur, il y avait un écriteau non juif.
Non. J'ai un listing avec tous les noms du groupe en face du mien.
Ah oui, d'accord. Ah non, alors j'avais pas compris votre question. J'avais pas compris la situation.
Je suis mal exprimée et je dis moi, comment il le savait ? Donc je pense que sur un nom de famille, on peut mettre une étiquette ou pas. Mais je pense que c'est pas possible non plus.
Non, mais je pense qu'effectivement, voilà, c'est carrément choquant, en effet. Mais c'est carrément choquant.
On a fait un voyage passionnant, on a étudié
l'ensemble. Oui, oui. Non, mais là, c'est choquant. Là, effectivement, c'est une discrimination.
Ouais.
D'autant plus que c'est potentiellement inexact, parce qu'on n'est pas juif, il n'y a pas de non-juif, alors évidemment si on s'appelle Cohen, il y a une petite présomption, mais les noms ne disent rien de la judéité d'une personne. On est d'accord.